Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission présentera quelques réflexions concernant la thématique du super-héros dans les jeux vidéo, en prenant notamment les exemples de Superman, de Batman et de Spider-Man, et interrogera les relations avec les héros nés dans le média.
Première partie, aspect d'une problématique.
Comme de coutume pour le dernier numéro de la saison, lançons ici quelques réflexions éparses et quelques remarques transversales sur la question du jeu vidéo, en particulier sur les adaptations de comics. Je centrerai mes remarques sur la question du super-héros, qu'il me faut définir assez précisément pour ne pas me perdre. En effet, si nous avons tous une idée plus ou moins vague de ce type de personnage, que je me permette de centrer ses caractéristiques les plus saillantes. Je définirai ici le super-héros selon trois critères. Tout d'abord, ce héros doit être né dans un comics, soit dans une bande dessinée américaine ou, s'il s'agit de la reprise d'un personnage existant, la mythologie l'entourant doit s'en départir suffisamment pour justifier ses détours. Le Thor des Avengers, par exemple, sera considéré comme un super-héros, car le monde où il évolue, sa personnalité, etc., s'éloigne notablement des sources mythologiques premières présidentes à sa création, et ce bien qu'il y ait d'évidentes continuités entre les éléments. En revanche, lorsque Superman affronte Hercule dans le cadre d'une histoire ponctuelle, cela ne transforme pas le demi-dieu antique en super-héros pour autant. Deuxièmement, il doit s'agir d'un justicier, c'est-à-dire qu'il possède un certain sens moral dont il se revendique et qui l'invite à réaliser un idéal de bonté ou de justice, et ce que cet idéal soit ou non, discuté, sujet à caution ou perverti vis-à-vis d'une norme explicite ou implicite. Enfin, il doit dans ses aventures faire preuve de qualité dépassant l'humanité et ses définitions traditionnelles, que ce soit en termes de capacité physique, d'intelligence, de rapidité, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas ici de décréter que ce qui est accompli est, ou non, réalisable par le commun des mortels, mais qu'il faudrait pour ce faire un travail immense pour atteindre cette perfection. Il en va par exemple de Batman qui, certes, ne peut courir, penser, frapper plus fort qu'un individu lambda, mais touche une excellence associant celle des plus grands athlètes et celle des plus grands penseurs de l'histoire. Tout personnage répondant à ces trois critères sera identifié comme un super-héros. Sans le premier, il s'agit d'un dieu ou d'un héros antique. Sans le deuxième, d'un super-vilain. Sans le troisième, il ne peut être un héros. Il va sans dire que les super-héros jouissent, aujourd'hui, d'une popularité sans nul autre égale. Jusqu'à récemment encore, et ce bien que certaines adaptations passées leur aient fait connaître un beau succès, ils appartenaient à une culture fermée, circulaire et cachée. Ils sont à présent parfaitement intégrés à la culture dite « populaire », et tout un chacun s'est approprié leurs avatars, leurs apparences et leurs dimensions, même simplifiées. Le jeu vidéo n'a bien entendu pas attendu ses récents succès pour illustrer leurs aventures, mais c'est l'irrégularité ou, du moins, l'étrangeté des résultats qui étonne. Des héros semblent souvent mieux représentés que d'autres en jeu vidéo, et ce nonobstant les facilités, les excuses consistant à dire qu'une adaptation est toujours ratée. Comment expliquer sinon que les jeux Batman de la NES jusqu'à aujourd'hui sont souvent bons voire très bons, tandis que Superman a donné naissance, et régulièrement encore, aux jeux les plus médiocres qui soient, que Spider-Man supprime souvent, tandis que le Hulk ne produit que le dédain. C'est pour tenter de comprendre les forces sémiotiques en présence que nous proposons cette réflexion en interrogeant la place des super-héros dans le jeu vidéo.
Deuxième partie, de l'invincibilité et de son problème.
Prenons une étude de cas pour orienter nos futures réflexions et étudions les succès et les échecs de Superman sur N64. Certes, les graphismes, la maniabilité, la musique, les raisons conduisant à les lire parmi les pires jeux de tous les temps sont nombreuses. Nous laissons cependant les aspects techniques de côté ici, et nous voulons revenir plus particulièrement sur le fond du gameplay. Qu'est-ce qui rend, intrinsèquement, Superman sur N64 non seulement mauvais, mais également ennuyeux? Quand bien même ferait-on abstraction de la mission inaugurale, où l'on doit passer dans plusieurs cerceaux, le reste du jeu n'est guère avenant. À mon sens, il y a là plusieurs ennuis. Nous donnerons ici les principaux. Tout d'abord, les ennemis de Superman sont des machines ou des hologrammes. Ensuite, les différentes capacités du dernier fils de Krypton sont subordonnées à l'obtention de divers power-up, plutôt que de lui être immédiatement accessibles, et ce à l'exception du vol. Enfin, les décors sont indestructibles. Pourquoi cibler ces éléments en particulier? Parce qu'il nous semble précisément qu'ils ignorent le sel de ce qui fait Superman en tant que super-héros pour être des signes purement vidéoludiques. Qu'on y réfléchisse. Cela ne dérange quiconque que Megaman affronte des robots, et l'on peut également penser à Turrican, voire à Probotector, l'adaptation européenne de Contra. Qui peut s'offusquer de l'existence d'un power-up? Plus d'une fois ici a-t-on montré que son rôle engage la spécificité du média dans son ensemble. Et si ce n'est sur nos dernières consoles, bien plus puissantes, et encore, qui s'est un jour plaint des décors immuables, indestructibles et inamovibles, épargnés par nos actions? Mais d'un autre côté, c'est là le cœur de ce qui définit, chemin faisant, la personnalité de Superman. Il peut certes se battre contre des machines, mais le plus souvent affronte des extraterrestres, voire d'autres humains ou humanoïdes. C'est un être aux capacités illimitées, toujours disponible à moins d'être à proximité d'un bout de kryptonite, d'être sous l'influence d'un soleil rouge, ou loin d'un soleil ne serait-ce. Il peut détruire, s'il le voulait, la Terre entière d'un coup de poing, voire d'un souffle. Il y a donc comme une contradiction fondamentale entre l'esprit du jeu vidéo et l'esprit de ce personnage que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Batman s'appuie sur son équipement qui peut prendre la forme d'autant de power-up, tandis qu'il peut assommer sans tuer. Spider-Man n'a pas une force surnaturelle, du moins, pas jusqu'à démolir tout ce qui l'entoure sans y songer. Et ainsi de suite. Un jeu Superman, en ce sens, ne peut être que décevant dans son essence. L'on pourra toujours critiquer Interplay ou Titus, et même songer à The Death and Return of Superman de Sunsoft, ou à Injustice Gods Among Us. Intégrer Superman dans un jeu vidéo, c'est pervertir ce qui fonde son identité de héros au profit d'un terrassement plus propice à ce que l'on attend d'un héros de jeu vidéo. Il devient plus faible, il peut mourir. On lui enlève ses pouvoirs pour lui donner des power-up. Il n'affronte nul humain, de peur de tuer qui ou quoi que ce soit. Autrement dit, il ne s'agit pas pour nous dans ce numéro d'uniquement réfléchir en termes de bon ou de mauvais jeu, ou de fidélité vis-à-vis du comics original. Il s'agit également d'articuler les réseaux sémiotiques et du super-héros du point de vue diégétique, et du jeu vidéo du point de vue ludique. Et je pense que c'est parce que les réseaux sont trop distincts d'une part, et qu'il nous est impossible de trouver l'équilibre d'autre part, que les choses ne peuvent se réaliser pleinement. Nous réorientons alors notre problématique légèrement, en considérant qu'en matière d'adaptation de super-héros en jeu vidéo, il ne s'agit pas uniquement de reprendre l'image du personnage ou ses caractéristiques, sa diégèse, mais également de les penser en adéquation avec l'univers du jeu vidéo. Nous noterons que ce problème n'est pas directement lié au principe même de l'adaptation, puisqu'il en est des réussites, mais bien au personnage lui-même et de la façon dont ses pouvoirs s'accommodent du principe même du jeu vidéo.
Troisième partie, dieu, héros et super-héros.
Si je reviens sur les critères que j'ai présentés précédemment et qui me permettent de définir un super-héros, l'on remarquera qu'à l'exception du tout premier, à savoir qu'un super-héros doit être né dans un comic ou, du moins, avoir fait la majorité de sa carrière populaire dans un tel média, les seconds critères s'appliquent à merveille à la majorité des héros de jeux vidéo. La plupart sont héroïques, même si les jeux ont toujours proposé de diriger des méchants et de faire le mal à défaut de faire le bien. Remarquons cependant que nous dirigeons bien plus de figures positives que négatives par l'exercice même de notre partie. quant aux capacités surhumaines, est-il besoin d'y revenir ? Lorsqu'un personnage de jeu vidéo ne possède pas un équipement susceptible d'augmenter franchement ses capacités physiques, que l'on pense aux héros et héroïnes de Halo, Half-Life, Portal ou Metroid, il a de fait des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Mario saute plus haut qu'un immeuble et se sent élan. Link maîtrise la magie. Et je ne parlerai ni de Sonic, ni des héros de Resident Evil qui traversent en riant les épreuves mortelles les plus ingénieuses. Autrement dit, ce serait l'origine des héros des uns et des autres qui ferait la différence ici, et il y aurait comme une continuité directe des premiers vers les seconds. On dira qu'historiquement, le milieu du jeu vidéo, qui s'est surtout développé dans les milieux de la micro-informatique, est lié par ses créateurs à la culture des super-héros, et que les premiers développeurs de jeux n'ont jamais que reproduit ce qu'ils lisaient par ailleurs. Allons même plus loin peut-être. Comme les super-héros se revendiquent, au point de cohabiter avec eux, des héros des antiquités gréco-latines, Mario ne serait alors qu'un lointain cousin d'un Hercule ou d'un aîné. Nous ne laisserons pas dire ici que nous forçons l'analyse, ou que nous allons trop loin, puisque, précisément, nous réfutons cette vision des choses pour en substituer une autre. Nous ne ferons pas ici des personnages de jeux vidéo des sortes de nouveaux héros, puisque nous observons que l'interprétation que l'on peut faire de leurs différents pouvoirs les déporte notablement des héros antiques ou même des super-héros. Ces deux derniers modèles sont même plutôt très proches l'un de l'autre, dans la mesure où, indépendamment de leur caractère magistral et des réflexions qu'ils peuvent amener sur la place et le rôle de l'humanité dans le monde qu'ils parcourent, ce sont avant et surtout des épopées, soit des récits de fondation, que ce soit fondation d'une nation ou, encore, fondation d'une idée, d'un univers, d'autres choses encore. Si ce n'est les RPG, qui composent le genre qui se rapproche sans doute le plus des épopées classiques, nous remarquerons que nos héros de jeux vidéo sont généralement déjà constitués au début de notre partie. Le manuel du jeu, admettons, ou une cinématique dans les jeux plus récents, peuvent nous donner un arrière-plan détaillant l'origine de tel ou tel personnage. Mais souvent, nous contrôlons un héros déjà formé. Il en va de Mario ou de Samus Aran, mais que l'on songe également à Gordon Freeman, à Shell ou aux autres. L'aventure vient confirmer leur statut exceptionnel, mais ils étaient déjà, par leur présence même dans l'univers du jeu, des héros en puissance. Même les occurrences que l'on pourrait juger problématiques sont, en réalité, de ce ressort. Prenons le cas de Solid Snake, de la série des Metal Gear et des Metal Gear Solid. Nous savons que son existence, que son identité, est l'un des points névralgiques de l'histoire de ces jeux. Mais pour lui, si nous avertissons auparavant qu'il y aura là une révélation sur l'intrigue, il ne s'agit pas d'une quête prospective lui permettant de connaître une meilleure destinée, mais une quête rétrospective sur son origine véritable, celle d'un clone, d'un soldat légendaire. Il s'agit davantage d'une déconstruction que d'une construction, et les jeux vidéo prennent en essence plus de plaisir à défaire qu'à faire. Super Metroid nous fait débuter sans les équipements de Metroid 2, les power-ups de New Super Mario Bros. Wii U s'éparpillent à l'avant-vol. Les peuplades des jeux Civilization disparaîtront finalement une fois une nouvelle partie commencée, alors que les différents scénarios nous prêtent des pays déjà existants. C'est là, à ce qu'il nous semble, que se fonde la différence essentielle entre super-héros et héros de jeux vidéo. Les mythologies sont omnubilées par les chronologies et, globalement, par la temporalité. Elle construit leur importance véritable aux yeux de leurs contemporains à qui elles doivent rendre des comptes. Il n'y a qu'à voir dans le monde des comics les ennemis de nos héros venus des mêmes mondes qu'eux et qui sont les représentants de ces passés légendaires. Le général Zod pour Superman, Ra's al Ghul pour Batman, le soldat de l'hiver pour Captain America, et nous en passons. Les auteurs de comics tâchent, dans la mesure du possible, de prendre appui sur les histoires passées et préfère encore s'accorder étrangement à ce qui s'est fait auparavant, plutôt que de constamment repartir de zéro. Qui imaginerait, au début d'une nouvelle aventure de Spider-Man, qu'ils doivent réapprendre à tisser les toiles comme, mettons, Megaman doit à nouveau apprendre à appeler son chien, Rush, dans chaque épisode de sa série, à compter du troisième épisode. Parfois, les scénaristes font table rase, et nous avons alors droit à un nouveau récit de fondation. En ce sens, et pour le jeu vidéo, le seul moyen pour un développeur de s'assurer de son intégrité, que celui-ci appartienne ou non à une dynastie, c'est d'installer son héros comme une personnalité ayant déjà vécu de nombreuses aventures ou, le cas échéant, qui a déjà tous les attributs d'un héros quelconque. Dans Comic Zone, un dessinateur de comics devient un maître aguerri en arts martiaux. Un plombier comme Mario développe des capacités physiques hors normes, et nous pourrions multiplier à loisir les exemples. Quelque part, les personnages de jeux vidéo sont plus proches de l'Ubermensch tel que Nietzsche l'a décrit que les super-héros de nos comics. Ils sont au-dessus de l'humanité et ne lui appartiennent point. Ils sont préconstruits par les êtres humains et ne reviennent point parmi eux. À l'instar de Ryu dans Street Fighter, ils sont à jamais sur la route, cherchant toujours leur prochaine aventure.
Quatrième partie, échec, succès, progression.
Nos remarques précédentes sont peut-être réversibles et expliqueraient alors pourquoi les jeux vidéo s'adaptent difficilement non seulement au cinéma, mais également en bande dessinée. À nouveau, il est de notables exceptions, mais la règle semble davantage aller dans le sens de la médiocrité. Une fois encore, il ne s'agit pas seulement d'une question d'adaptation, car les romans, ne serait-ce, sont souvent fort bien retranscrits à l'écran, et ce même si c'est au prix de plusieurs modifications. Il nous semble que le problème vient plutôt de cette figure du héros et de la narration qui lui est associée. On ne saurait évidemment considérer le cinéma comme un ensemble monolithique, et chaque film raconte son histoire de sa propre façon. Et pareillement, le jeu vidéo est multiple, de plus en plus protéiforme, et on ne saurait décrire qui son gameplay, qui son histoire, comme une formule ou un théorème qu'il suffirait d'appliquer pour réussir. Nous devons alors restreindre notre approche pour comparer les choses entre elles. Et nous remarquons que les adaptations de jeux en film se font le plus souvent sur le mode des films d'action type blockbuster qui suivent, quant à eux, une structure narrative codée comme du papier à musique et inspirée des schémas narratologiques des sciences littéraires. Un personnage est introduit, une épreuve le met en échec, il s'entraîne ou récupère un objet mythique lui permettant de se remettre en selle, il réaffronte l'épreuve et gagne, finalement. Cette construction est orientée vers la sympathie. L'échec nous permet de sympathiser avec ce héros avant de finalement aimer le voir réussir. On observera que ce schéma prototypique a été depuis reproduit, avec plus ou moins de succès, dans certains jeux vidéo récents. On citera les derniers Tomb Raider ou The Last of Us, dont les ambitions se rapprochent, plus que d'aucun, de ce type de cinéma. Mais le jeu vidéo d'ordinaire ne connaît pas cette écriture faite de haut et de bas. Il se construit souvent sur une montée en puissance, et si échec il y a, il n'est souvent qu'apparent. On se fait ainsi enfermer en prison dans Chrono Trigger ou dans Final Fantasy VI pour les besoins du scénario, mais on en ressort avec de nouveaux compagnons et de nouvelles armes. Samus Aran peut commencer ses aventures nues comme un ver, elle gagnera un équipement bien plus puissant par la suite, etc. Il est un type de cinéma qui reproduit ce type de structure, celui que l'on aura parfois appelé le cinéma de genre. Que l'on pense par exemple à Kill Bill de Quentin Tarantino. La mariée a une liste d'ennemis à abattre, elle y parvient, à l'instar d'un héros de jeux vidéo qui passe les niveaux, les uns après les autres. Les super-héros, quant à eux, répondent plus ou moins au modèle prototypique que nous avons observé plus haut. Un héros apparaît, le voilà invincible. Le super méchant le met en échec, car il a quelques machines qui exploitent sa faiblesse. Le super-héros doute, mais revient plus fort que jamais, et gagne, enfin. Nous pensons qu'il s'agit là, à jamais, que la seule façon de mettre en scène ces super-héros, sans cela nous retomberions dans les travers que nous expliquions concernant Superman 64. Qui veut suivre les aventures d'un être que rien ne peut arrêter? Mais d'un autre côté, le jeu vidéo ne peut prendre en compte parfaitement cela, car il est construit sur un principe d'augmentation continue de puissance et une trop grande narrativité mettrait en péril son interaction première. C'est peut-être pour cela qu'un héros comme Batman se prête traditionnellement le mieux, lorsque nous faisons la somme des différentes expériences, aux adaptations vidéoludiques. Non seulement sa ceinture s'associe bien, nous le présagions, au principe du power-up, mais de plus, il est toujours possible d'envisager une augmentation de sa puissance. Contrairement aux autres super-héros, son humanité lui permet de s'inscrire dans une progression qui ne dépend pas nécessairement d'un échec antérieur.
Cinquième partie, les gouffres et les passerelles.
Nous terminerons cette émission par une réflexion portant sur ce que l'on appelle la narration transmédia. Il s'agit d'une façon particulière de raconter une histoire, celle-ci se lisant par l'intermédiaire de différents supports. Que l'on songe à Enter the Matrix, racontant ce qui se déroule parallèlement à Matrix Reloaded, ou encore à la série télévisée Lost, qui dévoilait certaines parties de sa narration par l'intermédiaire de plusieurs web-séries. De la même façon que les grands héros mythiques ont vu leurs aventures maintes fois adaptées et de multiples façons tout au long de l'histoire, romans, poèmes, théâtre, peinture, musique, opéra, les super-héros ont également vu leur lot d'adaptations et nul ne m'est besoin de les énumérer ici. Il me faut cependant distinguer ce que nous appellerons les adaptations et l'univers étendu du transmédia en tant que tel. Dans le premier cas, il s'agit de transporter une œuvre créée sur un autre support. Il s'agit de raconter la même chose d'une autre façon, en ajoutant ou en retranchant des détails. De l'autre côté, il s'agit bien de poursuivre une histoire, ou de raconter un événement parallèle, par l'intermédiaire d'un autre support. Pour être d'accord sur les définitions, l'adaptation consiste à prendre une œuvre existante et en raconter la même histoire. Elle peut subir des modifications diverses, des ajouts ou des retraits, mais elle doit toujours partir du même endroit pour arriver, bon an, mal an, au même moment. Il en va par exemple de The Walking Dead, entre le comics et la série, ou des versions romancées des épisodes canoniques de Star Wars. L'on notera que selon cette définition, un auteur peut travailler volontiers sur la propre adaptation de son travail, à l'instar de Robert Kirkman pour The Walking Dead encore, créateur du comics et travaillant sur la série télévisée. L'univers étendu consiste à envisager la diégèse d'une œuvre comme un ensemble allant au-delà des bornes établies par son auteur premier, et les productions qui se revendiquent se situent donc à côté d'eux, en suite d'eux, ou avant les choses racontées ailleurs. Les œuvres ici peuvent être ou non du chef des mêmes auteurs et tout de suite, par définition, est un univers étendu, à la condition que l'œuvre première n'ait pas été pensée comme une histoire en plusieurs parties. Seule condition cependant pour que nous considérions une œuvre dans cette définition, il faut que le support soit rigoureusement le même que l'œuvre originale. Rogue One, A Star Wars Story, fait partie de l'univers étendu. Ce n'est pas le cas du jeu Star Wars Shadows of the Empire sur N64. Enfin, le transmédia consiste à raconter une histoire originale, s'appuyant sur un univers préexistant, sur un support distinct du premier. Nous donnions Shadows of the Empire ou Enter the Matrix, mais on pensera également à nombre de séries mettant en scène des super-héros. Il y a cependant quelque chose d'intéressant ici, au regard des définitions que nous venons de donner. Prenons par exemple le personnage de Mr. Freeze dans la mythologie Batman qui, décidément, nous retient particulièrement dans ce numéro. Entre sa première apparition en 1959 et ses incarnations les plus récentes, son identité, son histoire, ses pouvoirs ont notablement évolué avant de se fixer autour d'un canon plus ou moins fixé, mais jamais à l'abri d'une refonte. Aussi, l'on peut se poser la question. Entre le Mr. Freeze du comics, sans nom précis, celui de la série de 1960, le Dr. Shivel, le Victor Freeze de la série animée des années 1990 ou du film de 1997, et ainsi de suite. Doit-on, peut-on le considérer comme un seul et même personnage ayant connu de nombreuses adaptations? Ou bien est-on dans le domaine du transmédia, chaque version se servant de ce qui est propre à son média pour développer une histoire originale à partir du même univers? La question peut sembler gratuite, mais elle fonde pourtant les relations symboliques que les jeux de super-héros entretiennent avec le monde du jeu vidéo. Doit-on les considérer comme participants de l'univers construit à côté des comics, films, séries dont ils se revendiquent le plus souvent explicitement? On songera à Batman et Robin sur Super NES, Superman sur N64, les jeux sortis dans le sillon des films Marvel, etc. Ou bien comme des adaptations de ces derniers. La composante interactive d'un jeu vidéo empêche effectivement de raconter une histoire exactement de la même façon que l'original, quand bien même le voudrait-on. Même un jeu qui suivrait, bon an, mal an, le même déroulement que le film, la série ou le comics dont il s'inspirerait, rajouterait de multiples variations évolutives de partie en partie et qui rend l'expérience unique. Rien n'interdit à Spider-Man, à Iron Man, à Wolverine ou à d'autres de mourir avant de finalement remporter leur bataille face à tel ou tel méchant, de multiplier les aventures et les quêtes annexes, de ne rien faire ou de faire des actions sans lien aucun avec leur quête, et ainsi de suite. Les différences qui illustrent les adaptations avec leurs modèles sont généralement à la marge, et les spécialistes souvent peuvent les lister, exhaustivement, sans difficulté aucune, et on le comprend. Sans cela, ce seraient des histoires fondamentalement différentes. Parfois, certes, les fins changent notablement parce que l'adaptation alla plus vite que le reste. On pense à Fullmetal Alchemist en premier chef, mais ce sont là de fameuses exceptions qui n'engagent pas l'immense régularité des choses. Aux côtés de cela, le transmédia est entièrement original et pour cause. Une redite empêcherait les lecteurs, spectateurs, auditeurs de poursuivre l'univers qu'ils apprécient par ailleurs au profit d'un succédané bien fan. Dans le cas du jeu vidéo pourtant, les différences de l'adaptation sont bien plus nombreuses. Ils ne sont du reste pas uniquement cantonnés au monde du super-héros. Que l'on pense à une adaptation comme celle d'Aladdin de Capcom sur Super Nintendo, où le héros explore des niveaux jamais vus dans le film, ou encore à telle adaptation de Predator sur NES, qui rend ce dernier plus solide que tout ce que l'original peut nous présenter, et pourtant ce dernier d'être particulièrement gratiné. Tout cela nous conduit alors au cœur de notre réflexion. Doit-on considérer un jeu vidéo mettant en scène un super-héros comme une adaptation, ou bien comme une forme de narration transmédiatique, y compris lorsque le jeu se revendique d'un film, d'un comic, d'un arc ou d'une histoire particulière? Il est quelque chose qu'il nous faut considérer. L'idée qu'un super-héros n'est pas un personnage dans le sens commun du terme, mais davantage un symbole, une représentation plus ou moins abstraite de qualités, d'idéaux, de pouvoirs. Cela explique notamment pourquoi chaque âge des comics, chaque auteur presque, chaque grand cycle réinvente les origines de ces nombreuses figures, comme nous le rappelions avec l'exemple de Mr. Freeze. Les grands éditeurs peuvent bien nous faire croire qu'il s'agit là de mondes parallèles, Terre 1, 2, 36 bis, il n'en demeure pas moins que ces variations cohabitent toutes. Elles possèdent une série de traits inaliénables, similaires à l'établissement des dynasties dont nous avons déjà parlé il y a deux numéros de cela. Mais elles sont suffisamment distinctes pour justifier leur séparation. Le jeu vidéo participe sans doute de cette dynamique, malgré lui peut-être. Il propose de nouvelles narrations et, se disant, s'affranchit des codes que l'on retrouve dans les autres médias, films, dessins animés, bandes dessinées. Il s'agit d'un univers parallèle qui exploite en plein les spécificités du jeu vidéo. Et nous affirmons même que sa démocratisation est sans doute passée par ce type de jeu, mettant en scène des super-héros. Non seulement les curieux, non spécialement joueurs, y vinrent car rassurés par quelque chose de connu, mais de plus, ils trouvaient là quelque chose d'accordable avec le principe du jeu vidéo. Les héros sautaient haut, loin, étaient forts et prodigieux. Sans doute est-ce alors pour cela que les super-héros hantent encore nos consoles et nos ordinateurs. Les adaptations de films, de séries, se sont trouvées une niche sur les plateformes de téléchargement, existent mais sur un mode mineur. Même Disney, en fermant sa plateforme Infinity, semble se retirer au fur et à mesure du média. Les super-héros, quant à eux, demeurent encore et, même, ont guère besoin d'un film fondateur pour se construire, comme en témoigne la série des Arkham pour Batman. Il faudra sans doute à l'avenir les considérer comme une pièce maîtresse de la mythologie du Chevalier Noir. Et lorsqu'un jour, un film ou un dessin animé adaptera le jeu vidéo et tentera de le faire le plus fidèlement possible, alors là, pourra-t-on comprendre l'évolution médiatique du jeu vidéo comme bel et bien achevée.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.